Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
La spiritualité des pays de l'Union européenne est un des héritages de la religion chrétienne. Les diverses façons d'interpréter, de vivre ou de rejeter le message chrétien ont eu et ont encore un impact décisif sur notre civilisation. André Vaucher est avec nous pour évoquer le rayonnement spirituel de l'Europe du Moyen-Âge. Carolingienne, monastique, féodale, croisée, hérétique parfois, mystique toujours, l'Europe fut sans cesse agitée par des courants spirituels. La recherche de Dieu de l'homme médiéval a façonné les générations à venir. Cette sacrée audace ou audace sacrée est aux origines de l'aventure de la mystique occidentale. Bonjour André Vaucher.
Bonjour.
Eh bien, il est évident que la vie spirituelle est tributaire des cadres économiques et des rapports sociaux dans lesquels elle s'insère. Le contexte historique est toujours en arrière-plan de l'évolution des mentalités et nous l'évoquerons bien sûr, mais aujourd'hui, notre sujet est tellement vaste, nous nous centrerons le plus possible sur le thème religieux lui-même. Alors parlons-en. On a longtemps considéré le Moyen-Âge comme l'âge d'or du christianisme. Aujourd'hui, on assiste parfois à une remise en cause du legs religieux de cette époque. On lui reproche à cette époque d'avoir trop prôné la fuite et le mépris du monde. Soit la chrétienté occidentale a connu la paix des cloîtres, mais elle a connu aussi les frères prêcheurs, franciscains, dominicains, entre autres. Et on lit souvent que ce sont ces prédicateurs-là qui ont le plus participé à étendre le message de l'Évangile au sein du continent européen, tout en forgeant la spiritualité populaire. André Vaucher, éclairez-nous au sujet de ce débat. Quelles sont les formes et le contenu de l'expérience religieuse de ces siècles que vous connaissez si bien, c'est-à-dire du 8e au 13e inclus? Et tout d'abord, quelle est la genèse de la spiritualité médiévale?
Bien, pour qu'on puisse parler de spiritualité, il fallait d'abord qu'il y ait une christianisation de l'Europe. Et ça a été un processus de longue durée. Donc, ne nous imaginons pas que le millénaire médiéval, puisque le Moyen-Âge a duré à peu près 1000 ans, ait été homogène. Toute la première partie, ce qu'on appelle le Haut Moyen-Âge, a été une phase d'implantation et d'extension géographique du christianisme qui, ne l'oublions pas, venait du monde romain, des rives de la Méditerranée, et puis qui a remonté, qui a pénétré progressivement, par vagues, sur l'ensemble du territoire européen actuel. Alors ça s'est fait en plusieurs étapes. Il y a une première étape avec l'Empire romain qui assure la christianisation 4e, 5e siècle des villes en particulier, autour donc du bassin méditerranéen. Et puis ensuite, il y a eu ce phénomène très important.
L'arrivée des barbares,
les peuples barbares, surtout ceux qui étaient minoritaires. Ces barbares n'étaient pas innombrables. Ils se sont trouvés vite noyés dans des populations qui étaient gallo-romaines en Gaule ou africo-romaine en Afrique, etc. Et ils ont eu tendance, progressivement et non sans difficulté, à adopter la religion de leurs sujets, des peuples qui leur étaient désormais soumis.
Ce qui a transformé la vision de l'application du christianisme?
Voilà, ça a surtout tiré le christianisme, je dirais, non pas forcément vers le bas, ça serait déjà un jugement de valeur, mais vers le concret, car ces populations récemment romanisées, récemment christianisées, n'étaient pas très évoluées du point de vue intellectuel dans tout l'aspect, disons, théologique, doctrinal, qui était si important dans le christianisme du monde oriental, grec, leur a échappé. Mais par contre, ils ont été très sensibles, par exemple, au culte des reliques, qui est absolument fondamental dans la mesure où les reliques sont quelque chose de concret, qu'on peut toucher, qu'on peut voir, et au culte des saints en général. Voilà. Alors, ensuite, il y a une autre étape qui est avec l'Empire carolingien, Charlemagne et ses successeurs. Le christianisme qui s'était déjà implanté dans l'Allemagne de l'Ouest actuelle a été propulsé dans toute l'Allemagne, y compris l'Allemagne du Nord, la Saxe, où Charlemagne l'a imposé de force d'ailleurs.
Oui, parce qu'à ce moment-là, le pouvoir était aussi entre la couronne et
voilà,
l'Église.
L'empereur, surtout à partir du moment où il y a eu de nouveau un empire en Occident, à partir de 800, l'empereur carolingien se considère comme responsable du salut de son peuple, pas seulement
mais des âmes,
de la gestion temporelle ou politique, comme dirions aujourd'hui, mais aussi des âmes, beaucoup plus que le pape, qui à l'époque est encore un personnage, je ne dis pas secondaire, mais enfin relativement modeste. Et alors, donc, c'est Charlemagne lui-même et ses successeurs qui vont implanter le christianisme dans des régions où il n'était pas encore, en même temps qu'ils développent leur domination politique. Les deux sont liés et n'étaient pas à l'époque ressentis du tout comme contradictoires, au contraire. Et puis alors ensuite, nouvelle vague autour de l'an 1000 avec la christianisation des peuples slaves et hongrois, donc sous l'influence en particulier du monde germanique, des missionnaires, mais aussi d'Irlandais, d'anglo-saxons qui sont venus des îles et qui ont pénétré le continent en profondeur. Donc ça c'est très important parce que aussi bien en Pologne qu'à Kiev en Ukraine, autour de l'an 1000, se mettent en place des royaumes chrétiens et les populations sont baptisées. Là non plus, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais en gros, ça se joue à ce moment-là. Et ensuite, il ne reste plus que quelques îlots du paganisme en Scandinavie, en Finlande et en Lituanie, qui sera le dernier pays à adopter le christianisme au XVe siècle. Mais disons que dès le XIIe siècle, dès le début du XIIe siècle, pratiquement tout ce que nous appelons l'Occident aujourd'hui est christianisé.
Quand on parcourt tous ces livres sur cette époque-là, on est un peu étonné de voir très souvent citer la Hongrie. Pourquoi est-ce que cette Hongrie est devenue chrétienne d'une façon aussi forte, avec des saints, avec... Est-ce que c'est un lieu de passage qui
Alors la Hongrie est effectivement un lieu de passage et c'était un territoire et un peuple charnière. C'est-à-dire que les Hongrois s'étaient fixés, après avoir erré et commis beaucoup de violences dans toute l'Europe au Xe siècle, a fini par se sédentariser dans la plaine du Danube. Et leur christianisation était un enjeu entre d'une part l'Église latine, l'Église de Rome, et l'Église d'Orient, Constantinople. Et finalement, les Hongrois, pour des raisons qui seraient trop longues d'expliquer ici, ont basculé du côté de l'Église latine, donc ont accepté le christianisme dans sa version romaine. Et je dirais qu'ils n'avaient pas tellement le choix, étant
en quelque sorte
entre le marteau et l'enclume, entre deux grandes civilisations chrétiennes. Ils ne pouvaient pas rester païens et leurs rois ont compris, leurs chefs, parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore de roi, ont compris qu'en se convertissant, d'une part ils entreraient dans une civilisation plus avancée et d'autre part ils pourraient s'intégrer justement dans ce monde considéré comme supérieur. Et donc Saint-Étienne, le premier roi couronné de Hongrie, a fait un pari extrêmement audacieux mais réussi finalement, de créer à la fois un royaume, il a pris le pouvoir dans l'ensemble de la Hongrie, et il a fait basculer tout son peuple dans le christianisme. Il y a eu des réactions, il y a eu des retours du paganisme ensuite, mais en gros, disons, autour de 1050, ça y est, la Hongrie est arrimée au monde chrétien, et ce sera très important parce que, par exemple, 50 ans plus tard, lorsque les croisés partiront pour essayer de délivrer Jérusalem, eh bien, la première croisade passera par la Hongrie, par la voie de terre, pour gagner Constantinople et ensuite le Moyen-Orient.
Oui, donc la Hongrie a bien fait son rôle de pays frontalier et ouvert sur l'un monde ou l'autre, l'Orient et l'Occident. Est-ce que nous avons à peu près balayé toute la genèse avant d'arriver à ce fameux âge monastique et féodal de la fin du Xe et du XIe ?
Oui, je dirais même que pour la période antérieure au XIe siècle, il n'y a pas tellement lieu de parler de spiritualité dans la mesure où c'est plutôt un problème de conversion, d'adhésion volontaire ou forcée au christianisme. Simplement, à l'époque carolingienne, dans la vieille chrétienté, Italie, Gaule, enfin la France actuelle, on voit se développer quand même déjà une ébauche de spiritualité autour de la liturgie et autour de, je dirais, une actualisation du message biblique. La Bible n'a jamais été inconnue, bien sûr. Si on parle du christianisme, on ne peut pas ignorer la Bible. Mais le monde carolingien était fasciné par le modèle de l'Ancien Testament.
C'est-à-dire les rites.
Voilà, avec un roi qui était à la tête de la société chrétienne.
Les pères de l'Église.
Comme David dans la Bible.
Les prêtres.
Voilà, les prêtres, les évêques surtout, qui sont les collaborateurs du roi, que le roi nomme d'ailleurs à cette époque. Et donc, toute cette civilisation de la liturgie dans laquelle les prêtres jouent un très grand rôle et qui est codifié à ce moment-là dans ce qu'on appelle des sacramentaires, c'est-à-dire des livres dans lesquels on décrit tous les rites qu'il faut accomplir pour consacrer une église, pour baptiser, exorciser, enfin tout est codifié à ce moment-là.
C'est-à-dire que c'est une mise en place.
Voilà, c'est une mise en place, je dirais, des structures, des cadres. Il n'y a pas beaucoup d'élan mystique où nous n'en sommes pas encore là. Oui. On met en place d'abord le cadre.
Il y a déjà la forme avant le fond.
Voilà, si vous voulez.
« la spiritualité monastique, pourtant, va bientôt éclater. Comment en sommes-nous arrivés là ?
Alors, le monachisme se développe énormément à partir du Xe siècle, et surtout après l'an 1000, enfin, sans faire de cette année 1000 une année spécialement importante, mais autour de l'an 1000, c'est certain qu'il y a un essor remarquable du monachisme. Il existait déjà depuis longtemps, puisque le monachisme a été inventé au IIIe siècle en Égypte, par saint Antoine, le fameux Antoine du désert. Mais il s'agissait surtout de petits groupes d'ermites très prestigieux, très ascétiques aussi, mais pas encore de grandes communautés. La nouveauté, justement, c'est la création, à l'époque carolingienne, de grands monastères avec des dizaines, des centaines parfois de moines qui sont entièrement voués à la célébration de l'office liturgique et à la prière. Et alors ce milieu monastique, c'est évidemment un milieu qui vit selon la règle de Saint-Benoît, parce que les Carolingiens ont imposé à tous les monastères de leur empire la règle de Saint-Benoît, qui à ce moment-là devient vraiment la seule pratiquement règle en honneur en Occident. Eh bien, dans ce cadre monastique, va se développer d'abord des traditions culturelles, parce que si on veut comprendre la Bible, il faut lire les pères de l'Église, il faut lire les commentateurs de la Bible, donc des bibliothèques, on copie des manuscrits, et un certain travail intellectuel qui va déboucher, surtout à partir du XIe, XIIe siècle, sur une véritable réflexion de type théologique et spirituel. Donc là, c'est du monachisme qu'est née la spiritualité de l'Occident.
Alors les règles de Saint-Benoît, travail intellectuel, travail manuel, prière.
C'est ça, exactement. Dans lequel le travail manuel tenait un grand rôle d'ailleurs. Parce qu'il fallait d'abord survivre. La communauté monastique, à l'origine, devait être autosuffisante. Et donc il fallait bien que les moines travaillent. La nouveauté justement à partir de Cluny, et surtout après l'an 1000, c'est que les moines ne travaillent plus. Parce qu'ils n'ont plus le temps. D'une part, ils ne travaillent pas parce qu'ils n'ont pas besoin, dans la mesure où les abbayes sont fondées par des princes, soit des rois, soit des seigneurs, de plus en plus, dans la société féodale, et que ces seigneurs les dotent de biens, de terres, de serfs, d'hommes. Donc, les moines n'ont plus besoin de travailler la terre ou de se consacrer à des activités manuelles, parce que la liturgie devient accaparante pour eux.
Commençons par Cluny,
oui.
Puisque on sait que Cluny va rayonner dans toute l'Europe. Quand est-ce que ça a commencé et comment est-ce que ça a évolué au cours
Alors,
du temps ?
Alors Cluny, bon, apparaît au début du Xe siècle, mais le grand essor de Cluny se situe justement autour de l'an 1000 et au début du XIe siècle, avec des grands abbés comme saint Odon et saint Odilon.
Et saint Mayol.
Et saint Mayol. Voilà, donc on a toute une séquence d'abbés absolument remarquables, avec des longs règnes. Puisque à Cluny, comme d'ailleurs dans tous les monastères bénédictins, l'abbé était élu à vie. Donc une fois qu'il était élu, à moins qu'il ne commette des fautes graves, il pouvait rester 20 ans, 30 ans jusqu'à sa mort. Voilà, donc ça a assuré une grande continuité, une grande unité au monachisme clunisien, qui est un monachisme, avant il y avait déjà des monastères, mais chaque monastère était isolé, était autonome. Il dépendait de l'évêque ou du roi ou du prince qu'il avait fondé et il n'y avait pas de lien.
Il n'y avait pas de réseau.
Pas de réseau. La nouveauté qu'introduit Cluny, c'est l'idée d'un réseau monastique, puisque Cluny est une abbaye réformée. C'est ça qui est fondamental, c'est que à Cluny, l'abbé est élu et désigné par les moines, alors que précédemment, c'était les fondateurs ou les descendants des fondateurs, donc des laïcs, des seigneurs, des rois, des évêques, qui nommaient les abbés. Donc, le monachisme se constitue en entité autonome et entreprend de réformer sur cette base les autres abbayes existantes. Et toute abbaye qu'un roi ou un seigneur ou un évêque voulait réformer, il l'a confiée à l'époque à des Clunisiens, de façon à ce qu'ils restaurent une vie monastique sérieuse, authentique, et que ce ne soit pas simplement l'exploitation des richesses économiques du monastère, comme ça l'était devenu dans beaucoup de cas. Oui. Et alors, ces monastères, une fois réformés par Cluny, l'abbé de Cluny remplaçait l'abbé existant par un prieur, qui était son représentant local. Et donc, on aboutit à une organisation structurée.
C'est un peu pyramidal.
Pyramidal, exactement. Avec l'abbé de Cluny à la tête de la congrégation et puis des prieurs qui le représentent dans les abbayes devenues succursales, en quelque sorte. Voilà. Donc, on voit apparaître la notion de réseau. Ce n'est pas encore un ordre, mais c'est déjà un réseau très structuré. Alors, grâce à ça, les Clunisiens ont pu commencer à rayonner bien loin de la Bourgogne, jusqu'en Espagne, en Angleterre, en Italie, etc. Voilà. Correspond le réseau cistercien, donc est parti de l'abbaye de Citeaux en Bourgogne, début du XIIe siècle. Mais nous sommes déjà dans un autre contexte, qui est un contexte féodal. La grande nouveauté entre la fin, deuxième moitié, onzième, XIIe siècle, c'est le passage à la féodalité, c'est-à-dire que le vrai pouvoir, il y a encore des rois, bien sûr, mais la réalité du pouvoir est entre les mains des maîtres de la terre, les seigneurs, les comtes
locaux.
Voilà. Et donc, c'est une société déjà, je dirais pas démocratique, elle l'était absolument pas, mais il y a déjà plus de monde, disons, qui est concerné par le pouvoir, puisque le pouvoir est descendu d'un échelon, est descendu vers la base, au niveau du territoire, au niveau des châteaux. Citeaux reflète, le mouvement cistercien reflète ce nouveau contexte, on parlait tout à l'heure que la spiritualité ne peut pas se concevoir et se développer en dehors d'un cadre politique, économique, social. Et là, c'est tout à fait clair. Saint Bernard, par exemple, qui n'est pas le fondateur des Citeaux, mais qui a donné un grand essor à ce mouvement et qui y est entré avec une vingtaine de cousins, eh bien, il est tout à fait typique de ce milieu seigneurial, aristocratique, de petite aristocratie bourguignonne. Alors, qu'est-ce qui est nouveau à Citeaux ? Eh bien, le fait que, là encore, le mouvement essaime très rapidement et les nouvelles abbayes qui sont fondées, restent liées entre elles par un pacte qu'on appelle la charte de charité, c'est-à-dire que les abbés, les moines de ces divers monastères se reconnaissent solidaires, décident de continuer à s'entraider, à s'aimer et à se réunir. Et c'est ça la grande nouveauté de Citeaux, c'est l'invention du chapitre général, c'est-à-dire qu'une fois par an, les abbés des monastères cisterciens se réunissaient à Citeaux sous la présidence de l'abbé de Citeaux, mais qui n'était que le... Il avait qu'une primauté d'honneur, ce n'est pas lui qui décidait, les décisions étaient prises en commun. Donc,
c'est une autre mentalité.
Il y a une assemblée représentative qui reste aristocratique, puisqu'il y a seulement les chefs, les abbés qui y vont, mais qui quand même prennent les décisions en commun. Ce n'est plus une décision de type autoritaire,
oui, verticale,
comme pouvait en prendre une l'abbé de Cluny. Oui. Donc on est déjà dans un type de monachisme qui reflète une évolution de la société.
Je ne peux pas résister, bien que, évidemment, ce sera un petit écart, à vous demander le témoignage de l'art, entre, ou le témoignage du non-art, quoique tout art, même s'il est inexistant, correspond à une recherche, entre Cluny, qui valorise l'art, et Saint-Bernard à Citeaux, qui n'aime que le dépouillement. Est-ce que c'est aussi une mentalité qui évolue, ça ?
Absolument, mais je crois que l'opposition n'est pas entre art et non-art.
Oui, ou... c'est ça, c'est quel
mais
art ?
Mais que c'est quel art, plutôt, voilà. Alors, avec Cluny, on disait tout à l'heure, on est dans un monachisme orienté vers la célébration liturgique. Donc, rien n'est trop beau, et d'abord pour Dieu, bien sûr. Il faut accepter et développer le luxe dans les églises. Les vitraux qui apparaissent à ce moment-là, enfin qui se développent à ce moment-là. L'orfèvrerie sacrée, les pierres précieuses sur les missels ou sur les reliques, sur les reliquaires, etc. Donc, rien n'est trop beau pour l'œuvre de Dieu. Et pour les laïcs, les gens qui viennent dans les églises, dans les monastères, il faut qu'en voyant des œuvres magnifiques, ils aient un choc et que ça les renvoie à quelque chose qui les dépasse, c'est-à-dire trouver Dieu à travers la beauté. Voilà, en gros, c'est ça le mouvement qu'on attend de l'art à Cluny. Alors ça conduit parfois à des excès, en tout cas Saint-Bernard et les cisterciens ont réagi là contre. En disant, certes, Dieu est grand et rien n'est trop beau pour lui, mais finalement, multiplier les œuvres d'art dans les églises, c'est d'abord faire injure à la pauvreté des pauvres, mais aussi à la pauvreté du Christ. Et puis, ce foisonnement de choses belles risque finalement plutôt de détourner les esprits, enfin de créer une diversion. Et on n'arrive pas à se concentrer quand il y a trop de belles choses à voir. Voilà. Alors,
ça éloigne du recueillement.
Du coup, les statues de Citeaux, statues cisterciens, pour tout l'ordre cistercien, interdisent par exemple les sculptures dans les églises. Il peut juste y avoir une croix, à la rigueur une statue de la Vierge Marie, et puis c'est tout. Les vitraux seront en grisaille et pas
polychrome.
On évitera les peintures. Bref, l'idée que c'est par le dépouillement qu'on parvient à la connaissance de Dieu, et pas par le foisonnement de la beauté. Oui.
La beauté de la pierre,
voilà,
alors, mène vers les vérités.
Il n'y a aucun mépris de la beauté, mais il y a une autre voie pour y parvenir, qui est la voie du dépouillement et du renoncement, de la pauvreté, de l'humilité. Enfin, donc on essaie de retrouver des valeurs évangéliques et de les transcrire en architecture.
Mais ils ont effectivement l'élégance et la finesse
de
fait, cette nouvelle architecture.
Il n'y a aucun doute que c'est assez réussi. Alors, une des preuves aussi qu'il existe maintenant un ordre religieux homogène, celui de Cîteaux, c'est que les églises cisterciennes, bon, elles ne sont pas toutes identiques, il y a des variantes, mais globalement, il y a quand même un plan homogène et il y a un style homogène depuis la Bourgogne jusqu'à l'extrémité de la Pologne ou de la Hongrie. On retrouve toujours le même type d'église et d'art dépouillé.
Oui, parce que Cîteaux a encore plus essaimé que Cluny.
Alors Cîteaux a énormément essaimé parce que, justement, alors c'est un point important, à Cîteaux, on a voulu revenir à l'esprit du monachisme primitif, tel qu'il est décrit dans la règle de Saint-Benoît, dans lequel le travail manuel avait une grande place, alors que Cluny l'avait marginalisé, même parfois éliminé. Donc, ces moines de Cîteaux sont aussi des moines défricheurs, comme on dit, c'est-à-dire qui, d'abord, s'installent systématiquement dans des zones boisées ou des landes, enfin, des endroits peu fréquentés et où il faut, si on veut vivre, se créer un domaine agricole, donc il faut abattre des arbres.
Ça avait un côté colon.
Voilà, il y a un côté entreprise de colonisation, exactement. Et donc, les princes aussi, les seigneurs ou les rois, ont souvent fait appel à eux pour coloniser des régions qui étaient ou pratiquement désertes ou malsaines, drainées des marécages, ou des régions côtières envahies par la mer. Enfin bref, il y a tout un aspect pionnier, je dirais, à Cîteaux, qui a rendu ces moines particulièrement attirants. C'est à Cîteaux, par exemple, on peut encore le voir aujourd'hui à Fontenay, en Bourgogne, qu'on a systématisé les moulins à eau,
les forges,
enfin, tout ce qui est... Il y a une véritable hydraulique, par exemple, c'est cistercienne, ce qui est tout à fait étonnant pour des moines. Mais ceci est lié à l'idée qu'il se faisait du travail et de la nécessaire valorisation des ressources naturelles.
Voilà. C'était des moines ingénieurs.
Ingénieurs, en tout cas. Il y avait sûrement parmi eux des ingénieurs. Parce que sinon, ils ne seraient jamais arrivés à faire.
C'est ça, c'est ça qui est admirable.
Voilà. Mais il y avait aussi des architectes, puisque pour construire les monastères, bien sûr qu'ils faisaient appel à des spécialistes, mais il y avait aussi une participation des moines eux-mêmes à la construction.
Oui, parce que souvent, c'était quand même...
Certains d'entre eux.
C'est ça, ceux qui étaient.
Il y en avait pas mal.
Doués et lettrés.
Qui savaient tailler la pierre, au moins.
Nous avons parlé de l'âge monastique et de son impact sur toute l'Europe, mais je crois qu'à un moment donné, la religion a un petit peu évolué vers des temps nouveaux avec des nouvelles conditions de la vie spirituelle. Retour aux sources, prédication, dites-nous à quoi ça correspond.
Bien, là, il faut justement revenir au XIIe siècle, qui est vraiment un siècle fondamental en Europe. Parce que d'abord, c'est un siècle de grand essor économique, agricole,
urbain.
Démographique, urbain. Donc, il y a une reprise qui commence déjà parfois dans certaines régions, déjà dès le milieu du XIe. En tout cas, les réalisations, les progrès les plus remarquables se situent au XIIe. Et donc, c'est un autre monde qui commence à se mettre en place, qui est un monde dynamique, alors que le monde du Haut Moyen-Âge est un monde
qui aime la stabilité.
Et en plus, qui était quand même un monde pauvre, en dehors d'une minorité de rois ou d'évêques ou de grands seigneurs. La masse vivotait,
oui,
il y avait souvent des famines.
C'était des temps de pénurie.
Voilà. Ce qui n'empêche pas qu'il y avait des riches, mais une infime minorité. Le niveau de vie était très bas et l'espérance de vie très brève aussi. En schématisant, à partir du XIIe siècle, le climat change. Et avec l'expansion donc de la production agricole, sa diversification aussi, progrès de l'élevage, on mange plus de viande, on mange plus seulement des bouillies de céréales, mais aussi des légumes. Bon, tout ça, c'est des choses très matérielles, mais qui ont aussi des conséquences importantes sur le plan culturel, voire même spirituel. Donc, une civilisation plus dynamique et apparition d'une nouvelle mentalité qui fait une place, par exemple, beaucoup plus importante aux échanges commerciaux et aux voyages. À une société relativement fermée et stable succède une société où on n'hésite plus à se déplacer, mais parfois aller très loin. Bon, l'exemple des croisades est évidemment le plus spectaculaire, mais il y a aussi tous ceux qui partent à Saint-Jacques-de-Compostelle
ou au pèlerinage, pacifique.
Voilà. Et puis, il y a des aventuriers, il y en a beaucoup, il y a une grande mobilité, hein, cette Europe du XIIe siècle. Dans les régions surpeuplées, il commençait à y en avoir, comme la Flandre, par exemple, où il y avait déjà presque trop d'habitants par rapport aux ressources agricoles, eh bien, les gens n'hésitaient pas à partir peupler les territoires à peu près déserts de l'Allemagne de l'Est actuelle, ou la Hongrie, etc. Donc, il y a eu tout un transfert de population que nous n'avons pas de données quantitatives, parce qu'il n'y a pas de statistiques à l'époque.
Mais on se rend bien compte que ça a été communicant.
Voilà, énormément d'Allemands qui vont aussi, et ça va laisser des traces jusqu'au XXe siècle, des groupes très importants de paysans allemands qui vont s'installer jusqu'en Roumanie et qui créeront des minorités germaniques dans ces pays-là qui ont subsisté jusqu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, d'énormes brassages de population qui ouvrent des perspectives tout à fait nouvelles.
Et alors, arrive l'érémitisme?
Voilà. Alors, en même temps, comme c'est souvent le cas d'ailleurs, on a une expansion économique et des transformations sociales et une société qui aspire, enfin dont les élites redécouvrent finalement les textes fondamentaux, aussi bien d'ailleurs dans le domaine du droit que dans le domaine de la religion, le domaine de la spiritualité. On veut revenir à la perfection des origines, et en domaine religieux, des origines chrétiennes, bien sûr, puisque tout le monde est chrétien, sauf une minorité de juifs en Occident. Donc revenir aux origines chrétiennes, ça voulait dire pour les moines, je l'ai déjà dit, redécouvrir, remettre en valeur le travail manuel, mais ça sera pour d'autres de revenir aux textes fondateurs de l'Antiquité. Donc il y a tout un travail intellectuel qui se développe dans les monastères, mais aussi dans les écoles cathédrales à partir du XIIe siècle, et revenir à des traditions qu'on avait un peu perdues de vue, en Occident en tout cas, religieuses, comme l'érémitisme. Les ermites étaient des personnages fondamentaux dans le premier christianisme, le christianisme oriental, et on avait perdu ça de vue puisqu'on avait privilégié en Occident le cénobitisme, le fait de créer des communautés, parfois énormes, de moines. Et au XIIe, on redécouvre qu'à l'origine du christianisme, eh bien, il y avait des ermites et que cette vocation érémitique est une vocation chrétienne fondamentale parce que, en même temps, c'est la renaissance de l'individu. Jusque-là, les gens avaient vécu en communauté, en groupe, en clan. Au XIIe siècle, on va renaître le sentiment individuel ou naître sentiment individuel.
Oui, parce que la sécurité est plus assurée. Y a
voilà,
pas...
on a moins à craindre, donc on a moins à se défendre, donc on peut s'intéresser plus à soi-même. Et alors, cette naissance de l'individu, ce n'est pas encore l'individualisme, mais c'est l'individu, a une autre conséquence sur le plan religieux, c'est la redécouverte de l'intériorité. C'est-à-dire qu'être religieux, ça suffit.
Ce ne sont pas des rites.
Ne consiste pas à faire des pratiques et des rites, ou pas uniquement.
Enfin, oui, pas uniquement des rites,
avoir des,
mais une vie
mais
intérieure.
Avoir une vie intérieure. Et là, on retrouve un grand modèle chrétien qui est celui de saint Augustin, puisque saint Augustin a été vraiment le maître à penser, la figure marquante de l'Occident. Or, saint Augustin est un intellectuel d'abord, et un intellectuel qui s'est converti au terme d'un long chemin très compliqué, et qui a mis l'accent sur l'intériorité, Dieu, est-ce qu'il y a de plus intime en moi, enfin,
oui.
Donc, il faut retourner en soi, se convertir, mais aussi revenir sur soi, pour arriver à trouver Dieu, non pas seulement dans la nature ou dans la beauté du monde, mais à l'intérieur de soi-même. Donc il y a tout un nouvel horizon qui s'ouvre, et c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à parler vraiment d'une spiritualité, dans la mesure où elle est liée à l'intériorité.
Mais alors, on ne peut pas parler de mouvement contemplatif, parce que quand on regarde dans son vide intérieur, admettons que nous avons tous être humain, on ne contemple pas, on s'interroge. L'intériorité, dans ce cas-là, ce n'est pas tout à fait faire des prières et contempler.
Oui, enfin l'intériorité, c'est plus compliqué que ça. Ce n'est pas tel que l'entendait le Moyen-Âge, ce n'est pas la démarche psychanalytique. C'est de revenir sur soi, en soi, mais pour y trouver Dieu.
Avec, oui, bien
la,
sûr.
Avec la conviction justement, que saint Augustin avait développée dans ses confessions en particulier, que Dieu est au fond de nous, au fond de notre cœur, au fond de notre esprit, etc. Et donc, il faut s'abstraire des réalités contingentes du monde qui nous entoure, etc., pour arriver à le retrouver. Il faut faire silence pour l'écouter, parce que si on se laisse prendre par les activités du monde, on n'a jamais le...
Oui, la recherche de Dieu demande le silence.
Voilà, donc à ce moment-là, on développe le silence, la méditation, la contemplation. Alors la contemplation, évidemment, elle n'est pas toujours réussie. Je veux dire, il y a beaucoup de textes monastiques qui nous parlent des difficultés de la contemplation, de la même certaine sécheresse intérieure. Le moine s'efforce de trouver Dieu, il ne le trouve pas toujours, il ne le rencontre pas toujours. Il ne faut pas idéaliser... ni le Moyen-Âge, ni aucune autre époque. Mais la perspective a changé, si vous voulez. C'est quand même très important dans l'histoire de l'Occident que cette redécouverte de l'intériorité et de l'exercice qui consiste à prendre du recul par rapport au monde extérieur pour essayer de retrouver en soi le visage de Dieu.
Là, on parle bien sûr des prêtres, du clergé, mais aussi des laïcs.
Voilà, alors là, la grande nouveauté à partir de la deuxième moitié du XIIe siècle et surtout au XIIIe, ça va être l'entrée en scène des laïcs. Entrée en scène, entendons-nous bien, les laïcs étaient déjà chrétiens depuis longtemps, mais ils l'étaient de façon assez passive. Les vrais chrétiens, c'était les moines, considérés que c'était vraiment les athlètes de Dieu. Les gens qui s'étaient spécialisés dans la prière et qui avaient rompu avec le monde, c'était une sorte de super chrétien. Et les braves gens ou les pauvres gens qui vivaient dans le monde, qui se mariaient, qui avaient des enfants, qui travaillaient de leurs mains, étaient un peu considérés comme des chrétiens de seconde zone qui pouvaient faire leur salut, certes, mais presque uniquement par l'aumône, en s'adonnant à des œuvres de charité, en se montrant généreux envers les pauvres, etc. Or, la nouveauté de cette époque, c'est justement que cette masse de gens... qui pouvaient avoir des complexes, il y avait des moines, et commencent à prendre conscience qu'eux aussi peuvent, à travers leur vocation, leur état de laïc, peuvent faire quelque chose pour leur salut, ne pas être simplement de nature passive, ne pas vivre seulement la religion par participation au ministère des prêtres ou des moines.
Oui, c'est l'émergence du peuple chrétien nous emmener aux croisades, vers les hérésies, vers...
C'est ça.
Les pulsations de la vie intérieure de tout le monde.
Tout à fait. Alors les croisades sont un moment très important, alors... Il ne s'agit pas de faire l'apologie des croisades, mais les croisades sont importantes dans l'histoire de l'Occident, dans la mesure où, à travers les croisades, des laïcs qui étaient surtout des combattants, des guerriers, ont conçu un espoir de rédemption. L'Église condamnait la violence, surtout contre les personnes désarmées, et contre les ecclésiastiques, bien sûr, mais l'Église leur offre une possibilité de salut en disant, à travers l'usage de vos armes, vous pouvez malgré tout être sauvé.
Servir Dieu.
Si vous mettez vos armes au service de l'Église et de Dieu, en allant libérer le tombeau du Christ, le Saint-Sépulcre, etc. Donc, il y a une sorte de vocation qui s'ouvre pour les combattants. Et les combattants, c'était quand même justement toute la classe seigneuriale, chevaleresque. Ça faisait beaucoup de monde à ce moment-là. Et puis ensuite, les autres vont suivre, même ceux qui ne sont pas combattants. Il y aura même des croisades d'enfants qui partiront pour la Terre Sainte jusqu'au début du XIVe siècle. Bon, qui se feront massacrer, le problème n'est pas là, mais il y a cette idée que tout le monde est appelé à,
il y a l'élan.
À jouer un rôle. Il y a un élan, voilà, il y a un élan. Et puis alors, dans les milieux urbains, là aussi, surtout qu'il commence à y avoir des laïcs qui sont des gens instruits, les premières écoles juridiques, par exemple, les notaires, tout cela apparaît aussi.
Les universités.
Les universités au XIIIe, mais avant, oui. On a eu des écoles de droit, des notaires, dès le XIIe siècle.
Oui. Et à Bologne, en Italie,
à Bologne, oui. Voilà. Donc, il y a tout un milieu de laïcs cultivés, enfin, qui savent lire et écrire, il y en a même qui savent le latin, qui sont capables désormais d'accéder par eux-mêmes à la Bible, par exemple, et pas seulement en passant par l'intermédiaire d'un prêtre, mais en se faisant faire des manuscrits, en se faisant faire des copies des manuscrits qu'ils emportent chez eux pour les lire, pour les méditer, qui sont capables d'écrire aussi. On a des commentaires bibliques ou des traités bibliques dès le début du XIIIe siècle, en langue vulgaire, par exemple, en langue d'oc ou en vieil italien. Oui. Donc, il y a toute une effervescence du côté des laïcs qui aspirent, sans rejeter du tout la tutelle de l'Église, mais qui aspirent à se faire leur place, à être considérés comme des chrétiens à part entière et pas seulement des gens qui sont là uniquement pour cracher au bassinet, comme on dit vulgairement, c'est-à-dire à donner quelques sous à la quête.
La dîme.
Et payer la dîme. Voilà.
Payer la dîme. Vous parliez de latin, vous parliez de langue vulgaire, Bien sûr qu'on pense cette fois-ci à saint François d'Assise.
Voilà, et alors c'est précisément à ce moment-là que la figure de François d'Assise apparaît et se comprend mieux, parce qu'on présente parfois François d'Assise comme quelqu'un qui est en quelque sorte tombé du ciel, tous les sens du terme, et qui aurait tout inventé. François d'Assise se situe dans le droit fil de ce mouvement d'émancipation du laïcat, dans la mesure où il est lui-même un fils de marchand, donc il n'est pas, c'est pas un noble, il n'a jamais été prêtre, donc c'est un laïc, et un laïc fortuné, puisque son père est marchand de droit, un milieu aisé. Donc, il a fait quelques études, mais tout à fait élémentaires, ce qu'il fallait pour être marchand, savoir lire, écrire, compter, un petit peu de latin, mais vraiment le minimum vital, dirions-nous. Et voilà, donc c'est un personnage qui va jouer un rôle religieux très important, alors que c'est à peine, quand il écrit le latin, on a conservé deux lettres en latin de lui, il fait à peu près trois barbarismes par phrase.
On n'imagine pas très bon élève à l'école. Voilà. Je pense qu'il était fouillé par autre chose.
Alors, il était par contre passionné de littérature chevaleresque, parce que même dans les propos qu'on a conservés de lui ou des récits qui nous ont été conservés, on le voit citer souvent les chevaliers de la Table Ronde, Perceval, Roland, Charlemagne. Enfin, donc, il vit dans cette.
Il avait une culture gestuelle
et en même temps, il chantait en français parce que le français était à l'époque la langue de la littérature. Ce qui ne veut pas dire qu'il savait le français couramment. Pas plus que les jeunes d'aujourd'hui qui chantent en anglais ne sont pas forcément des anglicistes extraordinaires, mais la culture de l'époque, la culture de pointe chez les laïcs, c'était la culture française. Alors voilà donc un personnage, un type tout à fait nouveau, émanation d'un milieu urbain, d'un milieu commerçant, qui va ouvrir une nouvelle voie. Là, vraiment, il est à portée du nouveau, en disant qu'on pouvait vivre l'évangile dans le monde. Alors, vivre l'évangile dans le monde, ça paraissait une idée folle, d'abord parce qu'il n'y a pas de précédent. Et puis, François ne se fait pas moine, il ne se fait pas prêtre, il veut vivre l'évangile dans le monde tout en restant ce qu'il est. Donc, il aura du mal, il aura quelques problèmes, mais il va y arriver en fondant tout sur l'exigence de pauvreté. Et c'est là que ce thème de la pauvreté, qui était déjà apparu dans des mouvements qui avaient été condamnés par l'Église comme hérétiques à la fin du XIIe siècle, devient si important. Si on veut que le message évangélique soit transmis, soit reçu, eh bien il faut que ceux qui l'annoncent soient pauvres eux-mêmes.
Oui, voilà. Parce qu'ils sont mieux compris.
Voilà. À ce moment-là, leur témoignage n'est pas
sujet à caution.
Susceptible d'être remis en question parce que ce qu'ils font correspond à ce qu'ils disent. Alors, grande différence par rapport aux moines. Les moines étaient pauvres individuellement, certes, quand ils entraient au monastère.
Mais pas collectivement.
Mais ils étaient souvent richissimes, comme le prouvent les magnifiques bâtiments qu'ils ont fait construire. Ils étaient collectivement, surtout les cisterciens, devenus très riches. Donc François veut rompre avec tout ça. Ils deviennent riches, puis ils deviennent des seigneurs, ils deviennent des oppresseurs, des pauvres.
Des propriétaires.
Voilà, et comme tous les propriétaires, ils réclament leur loyer à la fin du mois et ils envoient en prison ceux qui ne peuvent pas le payer. Donc ça finissait par devenir un contre-témoignage. Donc François là-dessus est intraitable. Ceux qui le suivent, donc ils vont créer finalement un ordre religieux, l'ordre des frères mineurs, qu'on nous appelons les franciscains, vont devoir vivre dans la pauvreté, non seulement individuelle, mais collective, ce qui est quelque chose sans précédent et terriblement difficile à vivre, parce que vivre au jour le jour de mendicité, c'est s'en remettre totalement à la Providence.
Et mais s'ils veulent pas vivre voilà, nus comme le Christ était nu.
Mais en même temps, c'est pour ça que ce qu'on appelle les ordres mendiants, franciscains et dominicains, ont connu un tel succès. En l'espace de 20 ou 30 ans, des milliers et des milliers d'hommes et de femmes aussi sont entrés dans leur maison, dans leur communauté. C'est précisément parce que ce témoignage d'un style nouveau était tout à fait convaincant.
Les dominicains, eux, c'est pas tout à fait pareil. C'est la foi, bien sûr, mais c'est l'intelligence, la connaissance. Ce sont souvent des savants, les dominicains.
Oui, alors les dominicains, donc frères prêcheurs, c'est ça leur vrai nom, fondés par saint Dominique, donc exactement dans les mêmes années que saint François a fondé ses frères mineurs, sont assez différents en ce sens que c'est un ordre de clercs, c'est-à-dire. Dominique lui-même était un chanoine espagnol et qui s'est converti, si on peut dire, à une autre vie. Mais enfin, il avait une formation ecclésiastique et il recrute ses premiers frères parmi des clercs, des gens qui avaient justement ce que n'avait pas François et ses compagnons, les premiers compagnons au moins, une bonne connaissance du latin, de la Bible, des commentaires bibliques, etc. Donc c'est un ordre de clercs et d'intellectuels assez rapidement, parce que, après avoir essayé de faire de l'apostolat dans les régions du sud de la France, qui
était, vers Toulouse, principalement,
qui était extrêmement travaillé, disons, par les ferments hérétiques,
et
les,
oui, cathares,
ceux que nous appelons les cathares et les vaudois. Donc, finalement, tout ça se termine très mal, parce que ça se termine par la croisade et par l'extermination
des
albigeois. Donc, à ce moment-là, Saint-Dominique a pris une décision très importante, qui est d'envoyer ses frères dans les universités. Et c'est une orientation décisive, d'autant plus qu'ils étaient peu nombreux à l'époque, c'était donc très, très hardi d'avoir fait ça. Mais il les envoie à Paris, à Orléans, à Bologne, là où il y avait des universités et des étudiants. Et ce nouvel ordre va exercer une grande séduction sur les clercs, justement, et à ce moment-là, susciter des adhésions dans les milieux universitaires. Donc cet aspect intellectuel va encore se renforcer. Et donc ce sera un ordre de docteur, un ordre de théologien, un ordre d'inquisiteur aussi, que la papauté utilisera pour réduire l'hérésie, justement, à partir des années 1230. Et tout en étant attachés, eux aussi, à la pauvreté, au refus de posséder les biens, ils seront quand même moins axés sur la pauvreté que les franciscains, dans la mesure où, pour eux, il est important de pouvoir posséder, par exemple, des livres. Parce que sans livres, on ne peut pas faire d'études.
Et Dieu sait si les livres coûtaient cher à l'époque.
Les livres étaient un objet de luxe à l'époque. Et donc, il fallait ou copier des livres, ou se les faire prêter, ou les acheter, parce qu'il y avait déjà un marché du livre à l'époque. Ouais. Donc, les dominicains refusent aussi de posséder des terres, mais ils acceptent qu'on leur donne des rentes, qu'on leur fasse des legs par testament, de façon à pouvoir vaquer à leurs tâches, qui sont quand même avant tout intellectuelles et d'apostolat. Ouais.
Avant de conclure, je voudrais vous demander, quid des femmes dans tout ce monde religieux-là ?
Alors, excellente question, parce que les femmes sont longtemps restées en retrait dans tous ces mouvements. On parle toujours des hommes, mais en même temps, c'est justifié dans la mesure où tous les leaders étaient masculins. Mais là encore, le XIIe siècle a été extrêmement novateur, puisqu'on voit apparaître à ce moment-là des personnalités de femmes qui ont joué vraiment un rôle décisif, à la fois sur le plan social, culturel et religieux. Alors on pense évidemment tout de suite à Héloïse, bah Héloïse et Abélard,
oui,
bien sûr, mais Héloïse, c'est une femme cultivée.
Une femme de tête.
C'est une nouveauté, une femme de tête. Mais les femmes de tête, il y en avait déjà eu avant. Mais la nouveauté, c'est qu'elle est à la fois très énergique et très cultivée. Elle sait le latin, elle écrit des lettres elle-même, ce qui est rare à l'époque pour des femmes. Et elle devient abbesse à la fin de sa vie, après sa rupture, enfin sa séparation avec Abélard. Elle devient abbesse à l'abbaye du Paraclet, dans la Brie champenoise. Et elle fonde une communauté qu'elle dote d'une règle originale, etc. Donc les femmes commencent à jouer un rôle qui n'est plus seulement passif, mais au moins pour certaines d'entre elles, actif. Une autre femme très importante de la même époque, c'est Hildegarde, sainte Hildegarde de Bingen, qui est une moniale bénédictine allemande, bordurin, qui devient abbesse de son abbaye à Bingen, et qui est une visionnaire et une femme tout à fait extraordinaire, puisqu'elle s'intéresse à tout. Elle a écrit des traités de médecine, elle a écrit des œuvres musicales.
Des poésies.
Des poésies et des visions, bon, qui sont des visions spirituelles, bien sûr, mais dans lesquelles il y a toujours un élément poétique extrêmement important. Voilà. Donc, avec deux parmi d'autres.
Oui, je pense à Élisabeth de Hongrie tout à l'heure. Voilà. On parlait de Saint-Étienne de Hongrie.
Exactement. Alors, si on continue,
oui.
Donc ça, c'est un peu des précurseurs.
Oui.
Elles sont encore assez isolées, ces femmes qui jouent un rôle actif dans la vie religieuse. C'est quand même intéressant de voir que Hildegarde a été approuvée par la papauté, soutenue par Saint Bernard. Enfin, donc, c'est quelqu'un qui n'est pas resté dans l'ombre. Mais alors, au XIIIe, le mouvement s'accélère. On a véritablement une féminisation du religieux, avec des femmes qui jouent un rôle extrêmement actif, de premier plan. Alors, dans le sillage de François d'Assise, on a évidemment Sainte-Claire, qui va être à l'origine
des Clarisses,
enfin, ce qu'on appelait les pauvres dames à l'origine, et qui est une femme de tempérament extraordinaire, puisqu'elle a osé résister à trois papes, et que, j'allais dire, elle en est venue à bout, parce que les papes en question voulaient lui imposer une règle de type bénédictin, avec stricte clôture, le monastère étant propriétaire de ses terres, etc. Et elle voulait rester fidèle à l'esprit franciscain et en particulier refuser toute propriété et vivre aussi d'aumônes et de mendicité.
Ce qui était assez courageux pour une femme.
Ce qui pour des femmes était absolument inouï. Enfin même, puisque les femmes considéraient qu'elles ne devaient pas vagabonder dans les rues ou aller mendier, à la fois parce qu'elles couraient un risque et parce qu'elles pouvaient en faire courir un à d'autres. Donc la papauté interdisait strictement tout ça.
Et Claire est encore plus importante dans la mesure où elle est la première femme à avoir écrit une règle pour son ordre et où l'ordre des Clarisses a été séparé, a été un ordre indépendant de l'ordre franciscain. C'est la première fois qu'un ordre spécifiquement féminin a été créé. Jusque-là, il y avait évidemment des monastères bénédictins ou des bénédictines ou des cisterciennes, mais il dépendait toujours de monastères masculins. Avec les Clarisses, apparaît un ordre
féminin.
C'est une
indépendance totale.
Totalement indépendant des autres ordres religieux. Donc, les monastères étaient dirigés par des femmes et la structure dirigée par une femme. Donc, ça, c'est une grande
conquête.
Conquête.
C'est une conquête féminine.
Une conquête difficile, douloureuse, et
oui.
Qui ne s'est pas faite sans problème ni retour en arrière à certains moments. Mais malgré tout, ça marque bien l'entrée en scène des femmes. Et alors, on a un personnage qui incarne tout cela, c'est effectivement à côté de Sainte-Claire. C'est Sainte-Élisabeth de Hongrie, donc c'est une princesse hongroise, mais venue toute petite. Je crois qu'on l'a fiancée à l'âge de 3 ou 4 ans à un prince de Thuringe qu'elle devait épouser, qu'elle a épousé d'ailleurs quand elle a eu 14 ans. Donc elle est au moins aussi allemande que hongroise. Et elle est fascinée par les premiers franciscains qui arrivent en Thuringe vers 1220. Et à ce moment-là, elle mène une vie extrêmement exigeante pour les religieuses et surtout extrêmement charitable, mais alors une charité tout à fait engagée, c'est-à-dire qu'elle va donner à manger elle-même aux lépreux ou nettoyer les plaies des malades dans les hôpitaux, enfin des choses tout à fait inouïes, surtout pour une princesse. Et donc, après la mort de son mari, elle finit d'ailleurs par être expulsée du château familial et par errer dans les alentours. Oui. Donc là encore, une expérience tout à fait nouvelle qui va être à l'origine de tout un mouvement de communautés féminines hospitalières, par exemple, s'adonnant à l'aide aux soins aux lépreux, etc. Donc tout un mouvement caritatif à partir de Sainte-Élisabeth.
En fait, c'est une période de conquête, conquête de la vie intérieure, conquête de différentes formes de la vie religieuse, conquête du christianisme au féminin et conquête géographique de l'Europe.
Oui, c'est un mouvement d'expansion et d'évolution continue parce que la société bouge et donc la religion change aussi. On n'arrive jamais à la fixer dans l'immuable. Enfin, c'est la grande leçon du Moyen-Âge, c'est que le facteur changement, le facteur historique est très important. Tous ceux qui ont essayé de s'accrocher à des formes de vie religieuse dépassées se sont trouvés assez rapidement en crise ou marginalisés. Voyez. Donc c'est une leçon importante, ça. Il faut suivre le mouvement de l'histoire si on veut survivre. Voilà. Première leçon. Alors, deuxième leçon, eh bien, c'est l'approfondissement, l'élargissement, pas seulement géographique, mais l'approfondissement de l'expérience spirituelle qui s'étend à des couches de plus en plus larges de la population. Au départ, on a une petite élite de moines très restreinte. Ensuite, à partir du XIIe siècle, des formes de vie religieuse monastique plus variées, les chartreux, les ermites, etc. Et puis, au XIIIe, XIVe, un grand mouvement d'élargissement aux laïcs qui va de pair avec un processus de traduction en langue vulgaire des textes sacrés, de la géographie, de la poésie religieuse. Il commence à y avoir de la poésie religieuse en langue du peuple, que ce soit l'italien ou le languedoc ou le français. Et donc, plus on va, plus on avance dans le temps, plus les milieux touchés sont larges.
Et en fait, plus la vie chrétienne représente une familia européenne.
Absolument. Il y a un niveau européen qui ne cesse aussi de s'accentuer. On le constate à la fin du Moyen-Âge, c'est très net. Il y a des personnages, par exemple, évidemment, ce sont surtout des nobles, mais enfin, qui voyagent, des laïcs qui vont. Venise avait une très bonne réputation sur le plan religieux. Eh bien, il y a des seigneurs français qui allaient à Venise voir comment fonctionnaient les monastères vénitiens pour en créer du même type dans leur province. Ou bien on allait voir les chevaliers teutoniques en Prusse, à l'autre bout de l'Europe. Voilà, c'est ça. Parce que les chevaliers teutoniques avaient aussi une grande réputation en tant que chevalier chrétien.
De probité.
Et puis, ce qui est nouveau, c'est cette extension à partir du XIVe, XVe. L'Europe, véritablement, sans idéaliser la situation, il y avait évidemment d'abord conscience d'appartenir. On avait conscience d'être français, anglais, surtout avec la guerre de Cent Ans. Les nationalistes commencent à entrer
en ligne de compte. Mais on commence à s'intéresser davantage, par exemple, à ce qui se passe en Europe, ce que nous appelons Europe du centre-est, Bohême, Hongrie, Pologne. Ça devient des pays qui jouent un rôle de plus en plus actif dans la chrétienté. Et quand les Turcs vont attaquer les Balkans et envahir, à partir de la fin du XIVe siècle, les Turcs remportent victoire sur victoire et progressent sans arrêt en Serbie, hein, eh bien, à ce moment-là, c'est tout le monde chrétien qui se sent concerné. Enfin, il y a déjà une conscience européenne, sans exagérer. Ce n'est pas pour faire des discours à la mode d'aujourd'hui, mais véritablement, l'invasion des Turcs a renforcé. Et on voit bien, il y a une grande bataille à la 1396, donc on est à l'extrême fin du XIVe siècle, à Nicopolis, donc c'est confins de la Bulgarie actuelle et de la Grèce. Eh bien, cette bataille a été gagnée par les Turcs, d'ailleurs, qui ont massacré une bonne partie de la chevalerie chrétienne. Eh bien, parmi ces chevaliers, il y avait beaucoup de Français, de Bourguignons.
Oui, des seigneurs Bourguignons.
Voilà.
Qui étaient partis jusque là-bas.
Qui étaient partis là-bas pour défendre la chrétienté, ce qui témoigne d'un sentiment d'appartenance
à l'Europe.
Ils se sont dit concernés par ce qui se passait au fin fond de la Serbie. Je ne sais pas si aujourd'hui nous serions encore capables d'en faire autant, malgré
mais on va l'imaginer quand même.
L'Union européenne.
Merci André Vaucher.